Vous écoutez l'émission associativement vôtre sur RTVFM.
Bonjour, aujourd'hui donc on va recevoir deux personnes qui représentent l'école Candide de Lys-sur-la-Sorgue. Céline Bruzat, bonjour Céline.
Bonjour.
Donc Céline, vous êtes l'adjointe de Michel Bourton, qui est donc la directrice de l'école.
Bonjour. Oui, bonjour.
Voilà. Vous allez nous présenter un petit peu cette initiative privée. Donc c'est une école,
oui.
Mais qui est privée, puis qui a quelques petites particularités.
Oui,
vous allez
absolument.
Nous expliquer un petit peu la genèse de cette belle histoire.
Alors, j'ai commencé par créer l'association Candide en décembre 2012, qui est la structure juridique me permettant de fonder le groupe scolaire Candide. Alors, je dis le groupe scolaire parce que c'est pas seulement école primaire, ça va du CP à la troisième générale, donc école, collège, hors contrat. C'est à Lys-sur-Sorgue. On a ouvert pour la première fois le 1er septembre 2013 avec 26 élèves. Maintenant, on en a 80. Et deux chats. On y reviendra un tout petit peu plus tard, mais à l'époque, on avait deux chats. Très vite, on s'est rendu compte que mon idée de n'avoir que 15 élèves par classe, elle était bonne parce que je sortais de l'éducation nationale, donc je voyais bien la différence entre ce que j'avais vécu et ce que je commençais à vivre avec cette ouverture. Je n'avais plus 35 élèves par classe, mais 15 maximum, et même pas, puisqu'on a ouvert avec 26 élèves. Et on a pu les aider particulièrement, chacun d'entre eux. Et c'est petit à petit que cette idée, certes théorique, est dans ma tête, est venue se greffer sur la pratique pure et que l'on a pu tous ensemble évoluer dans le meilleur sens possible. Donc aujourd'hui, effectivement, on a toujours de la 6e à la 3e générale et des CP au CM2. Et on a une dizaine de chats. On est 7 profs qui enseignons évidemment dans cette école-collège, donc au groupe scolaire Candide. Et 15 élèves vraiment maintenant par classe, qu'on peut aider de manière tout à fait individuelle.
Alors c'est vrai que le cadre, moi j'ai eu la chance de visiter l'école, c'est magnifique, c'est agréable.
C'est vrai.
Les salles sont gaies, sont colorées.
Oui.
La disposition des tables n'est pas forcément celle qu'on connaît en rangée,
comme
on rencontre traditionnellement dans les écoles, dans toutes les écoles en fait.
Et c'est important.
Voilà, et puis il y a cette présence féline quand même qui échappe à personne.
Ah oui.
Alors, on ne va pas mettre trop en avant, les médias l'ont déjà fait peut-être un peu trop, de parler de ronron thérapie,
oui,
etc.
Absolument.
Mais n'empêche que la présence animale a un intérêt particulier.
Elle a un intérêt particulier au-delà de ce que j'imaginais. Moi, en fait, j'ai voulu amener des chats dans l'école. Au début, c'était pour faire comme à la maison, pour rassurer l'enfant.
Mmh.
Bon, bien sûr que je suis amoureuse des félins depuis ma plus tendre enfance, mais je me suis dit, mon école, elle aura des chats pour faire vraiment, pour rassurer l'enfant comme s'il était à la maison. Et quand j'ai vu, en fait, les pouvoirs des chats, j'en connaissais plein, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Au niveau des élèves, on a continué à avoir de plus en plus de chats. Bon, on s'arrête à une dizaine quand même. Et on a autorisé les chats à entrer dans toutes les classes, à se reposer sur les cahiers et les livres des élèves. Et c'est fabuleux parce qu'on voit les élèves stressés qui commencent à caresser le chat et qui respirent et qui sourient et qui se retrouvent effectivement comme à la maison. Et en plus, pour ces chats-là, les élèves un peu stressés, un peu angoissés ou qui manquent de confiance en eux existent pour quelqu'un. Donc, ils reprennent au moins confiance sur ce plan-là. Et c'est ça, c'est le début qui est important. Et les chats, quand il y a une dispute entre élèves, on se rend compte que les élèves se retrouvent autour du chat et qu'ils en rient eux-mêmes de leur dispute.
Ah oui.
Il y a une solidarité qui se crée. Et bien sûr, on fait tout pour que les chats soient aussi heureux que les élèves et les enseignants.
Alors, on les a vus, effectivement, ils sont vraiment, mais alors, heureux.
Hein. Ah oui, hyper épanouis.
Ils viennent.
Ah oui.
Ils reçoivent toutes les caresses de tout le monde.
Ah,
je
oui.
pense qu'ils ont quand même reçu certaines habitudes quand même. Hein. Ils sont...
Oui. Alors, on a fait deux mauvaises expériences en prenant des chats adultes et des chats abandonnés hein, et qui se sont sauvés ou qui refusaient d'aller vers les élèves parce qu'ils avaient peur. Donc, maintenant, on ne prend plus du tout de chats adultes. On prend que des bébés.
Qu'on habitue.
Voilà, qu'on habitue. Et on les met 15 jours dans ma salle, à moi, dans mon bureau, pour qu'ils repèrent et qu'ils flairent déjà tous les lieux. Et après, on ferme toutes les portes en dehors des récréations, évidemment, et on les laisse voyager. Alors là, on a deux petits en ce moment qui courent dans toutes les salles, et c'est génial. Et on les laissera sortir vraiment. Ça fait 15 jours, 3 semaines qu'ils sont chez nous. On les laissera sortir vraiment dans une semaine. Mais ça y est, ils connaissent déjà tous les élèves et ils y vont, ils ronronnent, ils se roulent partout. C'est génial.
Le paradis.
Ah oui, le paradis.
Donc vous êtes directrice de l'école, mais vous enseignez aussi également ?
Oui, oui, oui. Alors dans le public, j'étais enseignante en français et en histoire-géographie. J'ai un master d'histoire. Et là, ben, j'ai enseigné beaucoup, même à Candide, le français, l'histoire et la géographie. Mais plus on a d'élèves, plus ça fait de travail administratif. Donc là, depuis un an, je n'enseigne plus qu'aux petits CE2. L'année prochaine, j'aurai les CE1, CE2, mais je les ai le matin et l'après-midi. Ça me permet de me concentrer entièrement à tout ce qui est administratif et pédagogique.
Et vous, Céline, donc vous êtes enseignante ?
Oui, aussi.
Co-directrice aussi ? Vous êtes chargée d'une partie de la gestion de l'école ?
Exactement. Donc, on travaille en binôme avec Michel depuis la création de Candide, hein, en fait. Et j'ai les classes de CP le matin et puis l'après-midi aussi, je suis déchargée. Ça nous permet de gérer ensemble l'école entière.
Et vous enseignez quelle matière ?
Alors moi, je suis aussi dans le français, puisque dans ma vie d'avant, j'étais orthophoniste. Donc le passage a été assez simple vers cette matière-là.
Et vous avez été associée à la création aussi de l'école, en fait. Hein, c'est ça ?
Oui, on s'est connus. Michel avait déjà créé l'association.
On s'est connus en avril. Voilà, j'étais en plein avant... dans la fondation de Candide.
6 mois avant la rentrée. Et c'est une rencontre de cœur, en fait, qui nous a permis très, très, très vite de travailler ensemble. Et Candide ne serait pas ce qu'il est sans cette association-là.
Et Candide compte combien de rentrées scolaires jusqu'à maintenant, alors ?
C'est notre 6e rentrée scolaire l'année prochaine.
6e rentrée scolaire. Bien. Si vous voulez, on va faire une petite pause musicale. Après, on reprendra un petit peu le fil rouge qui fait que cette école fonctionne de cette façon-là.
RTVFM. Une radio, une identité, un territoire.
Ils disent j'ai de la chance, et je déteste ça. Je connais mon enfance, et je déteste moi. Car on n'est jamais trop riche, et puis toujours trop pauvre. Et les autres on s'en fiche. Jusqu'à ce qu'il nous sauve. À l'aide à moi. On m'a pas fait comme ça, non. À l'aide à moi. Comme un fils à papa, non. À l'aide à moi. On m'a pas fait comme ça, non. À l'aide à moi. Il est tard, et je voudrais qu'elle vienne dans mes draps, dans le noir, et fasse bomber mes veines contre un petit sein blanc. Comment suis-je capable, comme un gâté d'enfant, de verser une larme? À l'aide à moi, on m'a pas fait comme ça, non. À l'aide à moi, comme un fils papa, non. À l'aide à moi. On m'a pas fait comme ça, non. À l'aide à moi. Ah, des accords mineurs. Et moi, moi comme un con, je le fais de bon cœur. J'oublie que fut un temps soit peu d'amour, m'avait donné l'élan de savourer les jours. À l'aide à moi, on m'a pas fait comme ça, non. À l'aide à moi, comme un fils à papa, non. À l'aide à moi, on m'a pas fait comme ça, non. À l'aide à moi.
Écoutez l'émission associativement vôtre sur RTVFM.
Donc nous retrouvons Céline et Michel donc de l'école Candide de Lille-sur-la-Sorgue. Cette petite école privée, mais pas si petite que ça parce qu'elle accueille maintenant pas mal d'élèves. Donc on avait fait les présentations, la directrice, Michel, secondée par Céline qui enseigne également. Donc dites-nous un petit peu quel est le fil rouge du fonctionnement de cette école. Qu'est-ce qu'elle a de différent, mis à part le fait qu'il y ait moins d'élèves par classe?
Alors, effectivement, nous sommes uniques en Europe. On a bien cherché. Pourquoi ? Parce que le fil rouge, c'est donc notre pédagogie. Par exemple, on ne prend aucune note pendant les cours. J'estime que ça ne sert strictement à rien, puisque tout est très bien expliqué dans les manuels que nous utilisons, les mêmes que ceux qui sont utilisés dans l'éducation nationale. Donc, on explique les documents et les cours ne durent que trois quarts d'heure parce qu'on sait très bien qu'au bout de trois quarts d'heure, même nous les adultes,
on décroche.
Donc, les cours ne durent que trois quarts d'heure et pendant ces trois quarts d'heure, au lieu de noter ce qui ne sert à rien, on explique tous les documents sur la double page du livre et on en discute, on en débat, on peut tout expliquer. On ne perd pas de temps. Et pourtant, nos élèves écrivent beaucoup plus que dans un établissement traditionnel, puisque, en collège du moins, c'est suivi de 1h30 de devoirs. Alors, par exemple, on va parler de la révolution industrielle en histoire, on va expliquer ces documents, mais après, pendant 1h30, on va écrire, parce que le prof va dire, vous répondez aux questions 1 à 10. Et là, la méthodologie entre en jeu. Et c'est pour ça qu'on a autant de réussites aux examens. Quand on voit des élèves qui nous arrivent d'autres établissements, il faut tout leur apprendre, ne serait-ce qu'à souligner. Alors par exemple, on leur dit quand a eu lieu cet événement, les élèves qui nous arrivent marquent en 1940. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on répond à une question. On leur apprend donc à recopier la question, à faire une phrase-réponse, à souligner, à soigner leur orthographe et à rechercher, bien sûr, dans les documents. Parce que nous, chez nous, le mot contrôle, fermez vos livres et prenez une feuille, ça n'existe pas non plus. Personnellement, je trouve ça totalement ridicule.
C'est insupportable pour un élève, en tout cas.
C'est insupportable et ça ne sert à rien. Donc nous, pendant qu'ils font leurs devoirs, les enfants, bien sûr, peuvent regarder cette double page. Ils ont leur livre à côté d'eux et ils retiennent parce qu'ils vont chercher ces documents. Ils sont donc actifs, un peu comme à la fac, mais nous, c'est des
CM1. C'est vraiment intéressant.
Exactement. Et en plus, ils ont le droit de se lever discrètement pour aller chercher un dictionnaire des synonymes pour apprendre à faire des introductions sans répéter 15 fois le même mot, un dictionnaire de le Becherel. Évidemment, anglais, espagnol, pareil. Ils ont le droit de se lever, comme ils ont d'ailleurs le droit pour leur santé, c'est important, de se lever pour aller boire de l'eau ou pour aller aux toilettes, tout simplement. Toilettes qui, entre parenthèses, sont toujours absolument nickel, parce que j'ai tenu à faire un établissement où non seulement on peut en sortir extrêmement cultivé, tout à fait prêts pour tous les examens, et même ils sont bien plus prêts en sortant de troisième, ils ont le niveau fin de seconde chez nous, et un établissement où ils se sentent bien, même pour oser aller dans les toilettes simplement. Alors que moi, je me suis déjà retenue en tant que prof pendant des heures, malgré les toilettes des professeurs.
C'est vrai. Alors, ça veut dire pas de devoir à la maison.
Ça veut dire pas de devoir à la maison, puisque pendant une heure et demie, c'est suivi de devoirs. On les fait avec le prof. Et c'est sûr qu'à partir du CM1, on fait déjà ça. Et en cinquième, ils sont totalement autonomes. C'est très important, ça, quand on les suit. Hein, quand ils nous quittent en cours de route, évidemment, ils font ce qu'ils peuvent. Mais quand ils restent chez nous, en cinquième, ils commencent à devenir totalement autonomes, parce que sinon, avant, le prof, il est appelé par l'élève et il dit « Pauline, par exemple, ou Maria, je n'ai pas compris cette question. » Le prof arrive, ils ne sont que 15. Mmh. Le prof arrive et lui dit « Je vais la relire avec toi. » Et tu vois, c'est marqué « Chercher dans les documents 1 à 4. » On va rechercher cette réponse dans les documents 1 à 4. Et au bout d'un moment, il y a des gens qui nous disent « Oui, mais là, ils sont trop coucounés. » Mais non, parce qu'un enfant,
apprend, là.
Mais voilà, parce qu'un enfant, au bout d'un moment, de lui-même, il dit « Attends, je vais faire tout seul. »
Parce qu'il a vu comment ça fonctionne.
Et voilà.
Il va reproduire.
Et il va reproduire. Et il le fait. Et il le fait tout seul. Et de mieux en mieux.
Et du coup, il n'y a pas cette inégalité de ceux qui peuvent être soutenus dans leurs devoirs à la maison et ceux qui ne peuvent pas.
Exactement. Exactement. Il n'y a pas du tout cette inégalité. Et il y a autre chose qui est important aussi. C'est que quand ils sortent tous à la même heure. Hein, pour le covoiturage, ils arrivent tous à 9h15 le matin. Et ils partent tous à 16h15 l'après-midi. Il n'y a pas une voiture qui repart avec un seul enfant. Et quand ils sortent de chez nous à 16h15, l'enfant est libre. Donc, il a appris plein de choses dans la journée, mais il est libre de faire toutes les activités qu'il veut, sport, musique, art plastique, tout ce qu'il veut. Et les parents eux-mêmes nous disent « Vous nous avez rendu notre enfant ». Parce que quand il était dans le public, on faisait les devoirs jusqu'à 10h du soir, on se disputait, on en arrivait presque au moment du divorce même entre les parents. Alors que maintenant, on découvre notre fils et au début, on est désemparés, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, ils peuvent aller manger une glace, ils peuvent aller au cinéma, ils peuvent faire du vélo. Ils retrouvent leur fils ou leur fille et ils disent c'est incroyable, on le découvre, on voit qu'on peut discuter avec, ce qu'on ne faisait plus du tout depuis des années.
C'est vrai. Les conditions d'entrée pour cette école, c'est
ouvert conditions...
à tous. Bon, c'est privé, donc forcément c'est payant.
Oui, bien sûr, c'est payant et on ne peut pas faire autrement. Je rêve de faire l'école gratuite. J'en rêve de toutes mes forces, mais tant qu'on n'aura pas de mécène, on n'y arrivera pas. Et on cherche, mais c'est très difficile. Donc l'école ne vit, les charges, les salaires des enseignants, pas élevés du tout. Les salaires des enseignants, les charges, le loyer, etc. Ne peuvent être réglés que par les cotisations des élèves. Donc c'est 390€ par mois sur 12 mois pour qu'il n'y ait pas cet arrêt de virement automatique fin juin pour le reprendre en septembre. Et comme ça, c'est étalé sur 12 mois. Et on n'a que ça. On n'a jamais eu 10€ de subvention, pas même de la mairie de Lille-sur-Sorgue qui... quand même nous a accueillis à bras ouverts et que je remercie. Mais bon, elle nous a totalement oubliés, comme tout le monde, dans les subventions, on n'a pas eu 10€.
Quel dommage. Et le profil des élèves, alors un parent qui souhaite faire inscrire son enfant, qu'est-ce qui va le motiver de choisir cette école?
Alors, le choix de cette école, ce qui va le motiver, c'est qu'on est de haut niveau. Et maintenant, on le sait, c'est reconnu. Et donc, on demande une moyenne acceptable. Quand des enfants, on se marre parce qu'il y a des parents qui disent « Bon, ils nous téléphonent, gardez-moi une place pour l'année prochaine parce que je viens inscrire mon gosse. » Et on lui dit « Doucement, madame, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On veut voir les bulletins, les bilans s'il y a un problème d'orthophonie, de dyslexie, etc. » On demande un comportement impeccable. On est 15 élèves par classe, les parents payent tous. Il est hors de question d'introduire dans une classe un élément perturbateur qui va perturber tout le monde et qui va gâcher toute l'ambiance de la classe. Donc on demande un comportement impeccable, on demande évidemment une grande dose d'humanité parce qu'il y a beaucoup d'entraide entre les élèves et on demande qu'ils ne soient pas allergiques aux chats, bien sûr, puisque on en a une dizaine.
Bien, je vous propose de faire une pause, ça passe tellement vite, avant de se retrouver pour la dernière partie.
Bien sûr.
RTVFM, 100% Provence.
100% Provence.
She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. You know she beat me at darts and then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance my pretty little girl. Closing time, I was holding her hand, her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance my pretty little Galway girl.
Écoutez l'émission associativement vôtre sur RTVFM.
Donc nous retrouvons donc Céline et Michel de l'école Candide donc de Lys-sur-la-Sorgue. On était en train un petit peu de parler du fonctionnement de l'école et je vais peut-être demander à Céline de nous parler du projet pédagogique, des différentes actions qui sont développées dans l'établissement.
Alors Michel a déjà très très bien résumé le projet pédagogique ou en tout cas la ligne conductrice du projet. En dehors de ça, alors il faut bien entendre que l'on suit tous les programmes scolaires qui sont préconisés par l'éducation nationale. On n'est pas du tout une école qui se met en marge de ce qui se fait dans l'éducation nationale au niveau des programmes. Donc on n'est pas alternative dans le sens où on va proposer des matières différentes. D'accord. En tout cas, la transmission telle que l'a expliqué Michel est différente. Elle est beaucoup plus axé sur l'être et la personnalité de l'enfant et l'échange que l'on peut avoir avec lui. L'enfant n'est pas seulement un pion disposé dans une classe qui peut s'ennuyer au fond de la classe parce qu'il y a trop d'enfants et qu'on ne peut pas lui donner la parole tous les jours. Au contraire, là, dans une classe avec un petit effectif, il est entendu et vu chaque jour et entre en interaction chaque jour avec ses professeurs, ce qui pour nous est essentiel à l'envie que l'on va déclencher de vouloir apprendre. Outre les programmes de chaque matière, on tient compte aussi de tous les parcours éducatifs tels que les parcours culturels. Donc, dans notre association, dans les statuts, figure vraiment cette nécessité d'ouvrir à la culture. Donc, un voyage linguistique est prévu chaque année. Donc, cette année, c'était l'Andalousie avec l'Espagne. Il y a quelque temps, on a fait l'Angleterre avec le chemin d'Harry Potter. Donc, c'était superbe. Donc, voilà, chaque année, il y aura soit un voyage pour parfaire l'anglais ou l'espagnol, suivant les années. Et toutes les éducations donc à la route, les éducations aux gestes qui sauvent, voilà, toutes ces matières parallèles, on va dire, se retrouvent aussi chez nous.
Alors, c'est une école qui, bien sûr, ne s'adresse pas à des profils très particuliers. Néanmoins, on peut quand même se rendre compte qu'il y a certains types d'élèves, plus particulièrement, qui souhaitent entrer dans ce genre d'établissement.
Oui, c'est vrai. On a beaucoup d'enfants précoces, mais qui ont carrément 2 ans d'avance, et on les retient pour ne pas avoir 3 ans, parce qu'on sait que ce serait très difficile pour eux d'entrer au lycée à l'âge de 12 ans, quoi. Et on a aussi... Alors, les enfants précoces ne s'ennuient pas chez nous dans la mesure où on ne les traite pas comme des individus qui vont trop vite et à qui on donne des devoirs supplémentaires. C'est la dernière des choses à faire pour moi. Alors, nos enfants précoces qui ont fini en 3 quarts d'heure, par exemple, ce que les autres font en 1h30, et évidemment, ça vaut 20 sur 20, on leur demande d'aller aider les autres. Et ça, c'est génial, parce qu'ils le font avec une générosité et une fierté aussi. Oui. Ils sont reconnus, et c'est très bien, parce que ce sont des enfants extraordinairement sensibles. Un enfant précoce est automatiquement d'une sensibilité à fleur de peau. Donc, on leur demande d'aller aider les élèves, ou carrément d'aller voir dans une autre classe s'il n'y a pas un prof, en rigolant bien sûr, qui aurait besoin d'aide.
Ah oui.
Ça marche évidemment à 100%. Et l'enfant apprend lui-même encore à ce moment-là. Et nous avons aussi, depuis quelque temps, depuis qu'on est le groupe scolaire est devenu bilingue, nous avons maintenant une quinzaine d'enfants sur les 80 qui nous viennent des États-Unis ou de l'Angleterre et qui sont totalement bilingues. Je dirais même plus, les 2 petits qu'on vient de rentrer en dernier, là, sont pas bilingues du tout. D'ailleurs, ils ne parlent que anglais. D'accord. Ils vont venir dans notre groupe scolaire pour apprendre le français, en fait. Mais ils seront totalement bilingues. On a des enfants aussi qui vont arriver des États-Unis, là, et qui vont refaire une année. Ils vont rentrer en CE2 et ils vont refaire une année de CM2 aux États-Unis parce que les parents tiennent à ce qu'ils gardent bien les 2 cultures en tête.
Ah oui.
C'est génial.
Oui, c'est intéressant. Oui. Je crois que vous faites en sorte aussi d'avoir des contacts très réguliers avec les parents. C'est
oui.
Important, ça aussi.
Oui, effectivement. On n'a pas, nous, de carnet de correspondance. Ça évite cette angoisse à l'enfant que tout le monde connaît. Amène-moi ton carnet de correspondance, que j'y mette un mot. Bon, nous, on n'a pas ça. Mais remarquez que c'est guère différent, puisqu'on lui dit, si tu continues, j'envoie un mail à tes parents.
Mais, ça se saura dans tous
les
cas.
Oui, ça se saura. Mais on ne l'envoie pas toujours, hein, parce que on essaie de discuter beaucoup avec l'enfant avant d'en arriver là. Par contre, on correspond effectivement énormément avec les parents et on les encourage à le faire. On correspond par téléphone, par email, et quand il y a un problème, ce que l'on aime, nous, et ça marche à tous les coups dans ces cas-là, c'est que les parents soient avec et derrière nous. Dès qu'un parent commence à dire « Oui, mais mon fils, il est comme ci, il est comme ça, vous ne pouvez pas le comprendre », c'est raté, c'est fichu. L'enfant sait que sa mère est avec lui ou son père et c'est fichu.
Et là,
donc là, on les pousse.
Il n'y a pas de prolongement. Là, oui.
Voilà, il n'y a pas de prolongement. Soit les parents retirent leur enfant, soit on leur demande soit de nous faire confiance ou de le retirer effectivement. Il faut vraiment que les parents soient derrière nous.
Autre détail, il n'y a pas de restauration sur place.
Non, il n'y a pas de restauration et ça, c'est un truc génial aussi.
Oui, je trouve.
Oui, parce qu'au début, je me suis dit, ah non, c'est tellement dur d'ouvrir une école sur le plan administratif et sur le plan de la sécurité et d'énormes handicaps que je me suis dit, je ne risque pas de me lancer dans une cantine. Et puis, on a fait notre petit sondage et ça a été du 100%. À l'unanimité, les enfants ont désiré que leurs parents leur achètent un thermos pour aliments solides et c'est la cuisine de maman ou de papa qu'ils mangent donc le lendemain à midi. Ils mettent ça dans leurs casiers qui sont pourtant dehors à l'extérieur sous un préau. Et à midi, ça reste très chaud l'hiver, ça reste froid l'été et ça nous évite tous les problèmes de religion. Rappelons que nous sommes sans confession du tout, on est complètement laïque. Donc ça nous évite tous les problèmes de religion et tous les problèmes d'allergie.
Et en plus, c'est sympathique parce que je crois que quand il fait beau l'été, on mange dehors.
Ah
enfin,
oui.
Vraiment, je trouve que c'est...
Ils se partagent entre eux, c'est génial. Ah oui, complètement.
Il y a d'autres choses qui passent encore là.
Ah oui.
Il y a du troc à la campagne.
Ah oui,
pendant
il y a
le temps
du troc.
De midi. Tu me donnes tes carottes, moi je te donne mon blanc d'œuf.
Ah mais voilà. C'est super intéressant, puis ça crée vraiment du lien.
C'est vrai.
Et ça n'empêche pas donc que le niveau est excellent puisque vous êtes soumis au même contrôle que les établissements scolaires autres.
Oui, et je dirais même qu'on est plus contrôlé que les autres établissements parce qu'on est hors contrat. Alors, on a été contrôlé au mois de janvier et on a eu une excellente inspection. Mais je crois que ce qui joue en notre faveur, c'est le fait de suivre totalement les programmes. Voilà, à partir du moment où administrativement on est cohérent et pédagogiquement où l'on garde ces programmes, il n'y a pas de souci.
Plus un taux de réussite quand même relativement satisfaisant. Hein.
Oui.
Il faut quand même pas
avec un très bon niveau, mais c'est dû aussi au fait qu'on n'a que 15 élèves par classe et qu'en tant que professeur, on ne perd pas de temps à faire de la discipline. On a des classes sages. Tous les gens qui viennent visiter notre école sont émerveillés de voir que les classes sont calmes. Ils nous disent souvent, mais vous n'avez pas 80 élèves ici, c'est pas possible. Ben si.
C'est vrai, quand je l'ai visité, on n'avait pas du tout cette impression. Hein. Mmh. C'est vraiment des petites salles qui sont très belles, très colorées.
Mmh. Les candidiens, comme on les appelle, sont là pour travailler. Ça ne nous empêche pas de rire tous les jours. Mais ils sont là pour travailler et ils le savent. Donc, un enfant qui ne travaillerait pas ne resterait pas chez nous. Et donc, on ne se rend pas compte qu'il y a 80 élèves dans l'école parce qu'effectivement, ils bossent.
Oui, c'est vrai. Non, puis il y a des comportements qui sont amusants. Le jour où j'y suis allée, il y a un petit garçon qui a dit à son papa, je reste encore un peu dans mon école, je viendrai après.
Ah oh, oui, oui, oui.
On était samedi pourtant.
Et oui, on était samedi, oui,
tout à fait. Il était dans son école avec ses professeurs et les chats et il avait prévu de les rejoindre.
C'était le jour
après.
De la journée portes ouvertes, tout à fait. Ah oui, oui, il y a des gosses qui nous disent, oh, non mais moi je ne veux pas aller en vacances. Alors les parents sont morts de rire parce qu'ils se disent, mais c'est bien la première fois qu'ils nous disent ça. Et non, il y en a qui ne veulent pas partir en vacances.
Ça, c'est quand même un symbole de réussite.
Ah oui, merveilleux.
On aimerait bien que le système scolaire classique, on sait que ce n'est pas toujours possible, mais en fait, une des premières solutions, ce serait quand même le nombre d'élèves par classe. C'est quand
même
le principal élément de réussite. Hein,
c'est évident.
Qu'on peut se consacrer davantage aux enfants.
Oui. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, évidemment. Mais je viens quand même d'écrire au ministre de l'Éducation nationale pour lui demander de venir visiter notre école. Et j'espère que sa réponse sera positive. Enfin, j'espère pas dans les mois qui viennent, mais peut-être le prochain, je ne sais pas.
Je
dis ça avec humour parce que
je
réécrirai tout le temps.
Il faut venir voir pour être convaincu parce que je pense effectivement.
Il faut venir voir pour être convaincu.
Alors encore une fois, on va se quitter. Donc c'était l'école Candide de Lisle-sur-la-Sorgue. Je pense qu'il y a un site éventuellement, hein, si des parents veulent se renseigner.
Oui, tout à fait, c'est www.associationcandide.com.
Voilà, parce que je pense que c'est une expérience intéressante à découvrir.
Ah, c'est... Même pour nous, les profs, on y va avec un bonheur inouï. Les
J'ai
petits
vu des
nous
profs
manquent.
Heureux, c'est vrai.
Ah,
oui, tout à fait. Oui.
Ah, mais pour rien au monde, ils céderaient leur place.
Ça, je comprends. Eh bien, on vous remercie.
Merci.
Merci
au revoir
à vous.
Céline, au revoir Michel et merci beaucoup.
Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.